France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Benito, Stéphane Poitvin, Youtou Diego Hac Lopez, Olivier Dehaye et Martine Moni. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer cette semaine au chef d'orchestre Leonard Bernstein, à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. Lenny, comme l'appelaient ses amis, fut directeur musical de cet orchestre, le New York Phil, de 1958 à 1969. Mais il avait continué à le diriger pendant 20 ans jusqu'à sa mort en 1990. Ce que nous écouterons jeudi et vendredi, son mandat en tant que tel faisant le sujet des émissions de demain et mercredi. Quant à cette première émission, elle sera consacrée aux années 50 et nous remontons même jusqu'à 1943, jusqu'au 14 novembre 1943. Bruno Walter, le grand chef d'orchestre allemand, disciple jadis de Gustav Mahler, annonce qu'il est souffrant de la grippe. On appelle à la dernière minute un jeune homme de 25 ans. C'est encore inconnu Leonard Bernstein que le speaker de la radio publique américaine présentait ainsi en direct aux auditeurs.
Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra, of which Arthur Rudzinski is musical director. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. The program includes the overture to Manfred by Schumann, the theme, variations, and finale of the modern Hungarian composer Miklós Rosa, and Richard Strauss's tone poem Don Quixote, with Joseph Schuster cello and William Lintzer viola playing the solo parts. The concerts of the New York Philharmonic Symphony Orchestra are part of a musical heritage that has enriched American life for more than 100 years. United States Rubber Company, itself a century-old American institution, takes particular pleasure in bringing the music of the Philharmonic Symphony to the millions of radio listeners every Sunday afternoon. Leonard Bernstein has come out on the platform and will presently lead the Philharmonic Symphony in our national anthem.
Ce 14 novembre 1943, les États-Unis sont en pleine guerre et bien évidemment on joue à chaque concert l'hymne américain Star Spangled Banner, la bannière étoilée, chantée ici par toute l'assistance, le public du Carnegie Hall. Le public qui, comme les auditeurs de la radio, découvre ce soir-là un jeune homme de 25 ans, né le 25 août 1918, pianiste virtuose et compositeur, mais aussi chef d'orchestre, dont on découvre là les talents de chef d'orchestre. Pas tout à fait dans cet hymne national, plutôt dans le reste du programme joué par l'Orchestre Philharmonique de New York, qui était annoncé par le speaker, l'ouverture Manfred de Schumann, Don Quichotte de Richard Strauss et une partition de Miklós Rozsa. Alors nous devons passer les années, puisque la discographie de Leonard Bernstein à tête de l'Orchestre Philharmonique de New York est absolument pléthorique, donc nous n'écouterons pas d'autres extraits de ce concert. Je vous propose de retrouver tout de suite le pianiste et chef d'orchestre Leonard Bernstein, les deux en un, dans un enregistrement, là encore, capté par la radio. C'est en 1950, où le jeune prodige interprété avec l'Orchestre Philharmonique de New York, le premier concerto en Do majeur, opus 15 de Beethoven.
«
Thank you.
Leonard Bernstein applaudit dans les années 50, début des années 50, en tant que pianiste et en tant que chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York dans le rondo final du premier concerto en Do majeur, opus 15 de Ludwig van Beethoven. Le public avait découvert Bernstein grâce à la radio en 1943. Il va devenir une véritable star dans les années 50. Ce volcan musical va devenir la bête médiatique que l'on sait aujourd'hui. Bernstein, grâce à la télévision et une série d'émissions de télévision intitulée Omnibus, qui va être diffusée sur les chaînes ABC, CBS et autres. C'est une série d'émissions qui va révéler un pédagogue absolument formidable. Aujourd'hui, on a accès assez facilement sur Internet à ces célèbres vidéos. Celles-ci sont en noir et blanc de Bernstein, expliquant la musique dans des décors qui représentent des partitions géantes. Je vous invite à voir ou à revoir évidemment ces extraits musicaux tout à fait savoureux. Même si on n'est pas anglophone, on peut être tout à fait séduit par ces extraits. Et puis il y a le compositeur, bien sûr, en 1957, qui présente West Side Story, entre autres partitions. Ça, c'est l'arbre qui cache la grande forêt des œuvres de Bernstein. Il y a surtout, en ce qui nous concerne cette semaine, sa collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de New York, un orchestre fondé en 1842 et qui a eu des directeurs musicaux assez éphémères qui se sont succédés à la fin des années 40, Arthur Rodzinski, Bruno Walter, Léopold Stokowski, avant une certaine stabilité en partir de 1950, justement, grâce à Dimitri Mitropoulos, chef d'orchestre qui a beaucoup marqué le jeune Bernstein et à qui il va succéder en 1958. Bernstein, le voici de nouveau, justement, en 1958, encore une fois dans cet exercice périlleux du pianiste et chef d'orchestre, avec toujours le New York Phil et une partition de Shostakovich qui porte l'opus 102, c'est son deuxième concerto pour piano. C'est stupéfiant, la virtuosité de Leonard Bernstein. En 1958, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York, il jouait lui-même au piano ce concerto pour piano numéro 2 en fa majeur de Dmitri Shostakovich. C'était le premier mouvement allegro de cette partition contemporaine, puisqu'elle était contemporaine, de quasi contemporaine de cet enregistrement.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Justement, la musique contemporaine, c'est-à-dire celle de son temps, Bernstein la joue souvent à la tête de cet orchestre dont il est le chef assistant. Sa deuxième symphonie qu'il a enregistrée pour la radio, la musique pour piano, cordes et percussions à Célesta de Béla Bartok, le Sacre du Printemps, une version radio de 1951. On écoutera une grande partie du Sacre en studio. Et justement, il est beaucoup question de musique russe dans cette première partie de la vie de Bernstein aux côtés de l'orchestre. On le retrouve à la fin des années 50 avec un grand ami, c'est le violoniste Isaac Stern, qui a beaucoup enregistré en compagnie de Bernstein. Ici, encore de la musique russe. Après Shostakovich, voici Prokofiev et le final de son deuxième concerto pour violon.
Thank you.
Le final, Allegro ben marcato, du deuxième concerto en sol mineur, opus 63 de Sergueï Prokofiev par Isaac Stern, en 1957 avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Voilà deux interprètes de la même génération à deux ans près. Bernstein est né en 1918, Stern en 1920. D'ailleurs, cette année, c'est le centenaire de ce violoniste à qui Emmanuel Franc avait consacré une série d'émissions cet été. Je vous invite à retrouver sur notre site internet, sur l'appli Radio France. Allô, Mr. Stern. Et j'évoquais tout à l'heure des chefs d'orchestre qui ont marqué le jeune Bernstein, parmi lesquels Dimitri Mitropoulos. Il y a, malgré lui, Bruno Walter, bien sûr, dont la maladie en 1943 avait permis à Bernstein de se faire connaître de tous à la radio. Et il faut citer Serge Koussevitzky, qui a été un chef absolument fondamental pour Bernstein. Il a été son assistant à Tanglewood, la résidence d'été de l'Orchestre Symphonique de Boston. Et bien évidemment, le russe Sergueï Koussevitzky avait initié le jeune Bernstein à cette musique russe qu'il va tant aimer et qu'il va tant jouer, dont il va apprécier l'énergie, les rythmes et les couleurs orchestrales. En témoigne cet extrait de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky.
Thank you.
danse infernale du roi Kashchei, extraite de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein, qui devient donc le successeur de Dmitri Mitropoulos, le chef d'orchestre attitré, donc le directeur musical de cette prestigieuse Philharmonie de New York, l'un des Big Five, comme on disait jadis, les cinq grands orchestres américains de la côte est des États-Unis. Bernstein, qui pour fêter ce mandat, eh bien, dirige en studio une des partitions majeures du XXe siècle, Le Sacre du Printemps, que j'évoquais tout à l'heure. Il existe un enregistrement radio de 1951, d'une qualité sonore un peu médiocre, et puis il y a cet enregistrement studio réalisé par CBS, qui est devenu une des grandes références parmi les innombrables versions du Sacre, une version qui avait d'ailleurs tapé dans l'oreille de Stravinsky, qui avait beaucoup apprécié, me semble-t-il, cette version-là, Le Sacre du Printemps, dont voici sur France Musique la première partie, L'Adoration de la Terre, avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. 1958, 45 ans après sa création, le Sacre du printemps était ainsi interprété par l'Orchestre philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. C'était la première partie du chef-d'œuvre d'Igor Stravinsky, l'Adoration de la Terre.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Pour cette prise de fonction en 1958, rappelons que Leonard Bernstein est le premier américain à être nommé à ce poste prestigieux de directeur musical de l'Orchestre philharmonique de New York. Il dirige et enregistre beaucoup de musique russe, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, Roméo et Juliette de Tchaïkovski et autres tableaux d'une exposition de Moussorgski. Il y a de la musique américaine, musique de Charles Ives, de Gershwin, de Lucas Foss ou encore d'Aaron Copland qu'on évoquera un peu plus tard. Et puis il y a le reste du répertoire, les incontournables germanique, les 4e symphonie de Mendelssohn, 10e de Mahler, le répertoire hongrois avec Bartok, 2e concerto avec Isaac Stern, la musique de Haydn, de Schumann, l'ouverture Manfred, ça c'était sentimental puisqu'il l'avait dirigé en 1943 lors de sa première prestation à la tête de l'orchestre. Et puis il y a de la musique française. Bernstein était francophone, francophile, il a dirigé de nombreuses années l'Orchestre National de France et des interviews témoignent de son français vraiment impeccable, avec un léger accent bien entendu. Il dirigeait par exemple en 1958, les trois images de Claude Debussy, dont voici un extrait.
Thank you.
Par les rues et par les chemins, l'une des trois images de Claude Debussy, en tout cas un extrait des Iberia de Iberia, l'une des trois images de Debussy par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Le 19 mai 1954, Bernstein et une grande partie du monde musical américain avaient salué la mémoire de Charles Ives, compositeur décédé ce jour-là à l'âge de 79 ans, après avoir laissé une œuvre totalement inclassable, fascinante et totalement détachée de son environnement immédiat. Ives avait été agent d'assurance de son métier, c'était ce qu'on appelle un compositeur du dimanche, non pas au sens péjoratif, mais il consacrait son temps libre, hors de son activité professionnelle, à écrire des œuvres avant-gardistes, visionnaires, au point qu'on l'a souvent comparé à Arnold Schoenberg, né comme lui en 1874. Musique polytonale, polyrythmique et autres pages atonales ont fait que ces partitions sont restées totalement ignorées pendant un demi-siècle, jusqu'à ce que des interprètes comme Bernstein jouent pour la première fois ces œuvres de Charles Ives dans les années 50, comme cette symphonie numéro 2, écrite entre 1899 et 1902, mais créé seulement en 1951 par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Bernstein. Alors ce n'est pas la partition la plus avant-gardiste de Charles Ives, mais c'est assez fascinant d'écouter cette musique très lyrique, écrite à New York, au moment où Debussy écrivait ses œuvres à Paris. Adagio Cantabile, un extrait de la deuxième symphonie de Charles Ives, composée au tout début du XXe siècle et créée seulement en 1951. 7 ans plus tard, l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein, autrement dit les créateurs de cette partition, l'avait ainsi enregistrée.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici la dernière partition au programme de cette première émission sur Bernstein à New York. Il s'agit encore de musique américaine. C'est le concerto que Aaron Copland avait composé en 1926 à la demande de Serge Koussevitzky pour l'Orchestre Symphonique de Boston. L'année suivante, Copland avait créé lui-même au piano. C'était quelque temps après la Rhapsody in Blue de Gershwin, qui s'inspirait aussi du jazz et du blues, mais dans un autre style. Seulement, si la Rhapsody in Blue va connaître un immense succès mondial, eh bien cette partition va connaître une réception beaucoup plus tiède. Mais Bernstein tenait à mettre en avant cette partition, et grâce à Bernstein, eh bien, elle s'est inscrite assez définitivement au répertoire. Il faut dire que Aaron Copland était le mentor de Bernstein, c'était son aîné de 18 ans, son ami. Certains musicologues pensent même qu'ils furent amants quelque temps. En tout cas, deux musiciens très proches de par leur conception de la musique. En voici un témoignage avec cet enregistrement du concerto pour piano d'Aaron Copland, le compositeur au piano, l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Lenny.
Thank you.
enregistré en 1964 mais composé en 1926. C'était le concerto pour piano et orchestre d'Aaron Copland avec le compositeur au piano et l'orchestre philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Bonjour Yonel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chemchak, dites-moi, rassurez-moi, faites-moi plaisir, on continue avec Lenny demain.
Et demain vous pourrez venir en t-shirt et claquer des doigts parce qu'on commencera avec West Side Story bien sûr. Voilà. Et puis nous aurons également Yasha Eifetz, Isaac Stern côté violon, Grégor Piatigorsky au violoncelle ou autres, Robert Casadesus, André Prévin et Glenn Gould au piano.
Eh bien, on sera à l'écoute. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.